Bienvenue
sur
J'enrage,
votre
émission. Lilloise.
Thank you.
bonsoir, vous êtes bien sur Genre Rage, l'émission féministe lilloise d'RCV, RCV 99 FM. Il est 16h et quelques minutes, nous avons un petit peu de retard ce soir et on est le 20 octobre. Ce soir, on est deux, Anaëlle et moi, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour plutôt. Voilà, et donc on enregistre une émission qui va tourner autour des masculinités des femmes. Donc qu'est-ce qu'on entend par masculinité des femmes ? C'est-à-dire finalement, je dois préciser quelque chose d'abord, on va aborder des pratiques sociales qui sont instituées dans certains pays, à savoir l'Albanie et l'Afghanistan. En Afghanistan, où certaines jeunes filles, nées jeunes filles, sont reconnues comme hommes. Enfin, un petit peu détailler et préciser cette affirmation plus tard dans l'émission. Puisque pour certaines régions sociales, parce que la famille n'a eu que des filles, etc., et que la famille a besoin d'un garçon pour gérer, par exemple, des activités habituellement réservées aux hommes. Voilà. En tout cas, on va parler de la masculinité des femmes. Essayez de comprendre en Albanie, en Afghanistan. En Afghanistan, elle concerne, donc on ne va pas non plus, il n'y a pas une symétrie entre ces deux cultures, entre ces deux pratiques qui ont des contextes spécifiques. Hein, il ne s'agit pas de faire d'assimilation et de parallèles symétriques, mais du moins de les recouper sous le titre masculinité des femmes. En Afghanistan, on parle de bachapoche. En fait, c'est une catégorie sociale qui est reconnue, plus ou moins tolérée, qui n'est pas légale, ce n'est pas inscrit dans la loi, mais c'est rentré dans les mœurs, plus ou moins, et c'est plus ou moins toléré. On verra ça plus tard. Et en Afghanistan, ce sont je te laisse Anaëlle parler.
Ce sont les bournéchas, donc je vous détaillerai après un peu plus tard de quoi il s'agit, mais ce sont des femmes qui ont choisi de devenir des hommes. Alors c'est en général, c'est un processus qui se fait assez jeune, pour pouvoir protéger leur famille, parce qu'il n'y a plus d'hommes ou plus de garçons, plus d'oncles, plus de frères, plus de maris, plus de pères, etc. Au sein de la famille, je vous détaillerai ça un petit peu plus tard.
Donc on voulait quand même avoir quelques principes de base qu'on aimerait respecter pendant l'émission, qui sont pas évidents parce que c'est difficile de se décentrer, d'arriver à toujours suivre un discours qui corresponde aux valeurs que l'on défend. C'est la première fois sur Genre Rage qu'on va parler de cultures qui sont pas directement liées à la culture française, ou du moins évidemment qu'il y a des parallèles, mais on n'a pas de formation d'anthropologue ni de sociologue. On arrive un peu en néophyte et on n'est pas spécialiste et experte de la question et des méthodologies mais en tout cas on a certaines valeurs qui nous poussent à premièrement éviter d'avoir une approche trop impérialiste et surplombante qui consiste à premièrement diviser le monde selon la séparation Occident-Orient, en considérant que là-bas à l'Orient il y a des pratiques barbares éloignées des nôtres dans les sociétés industrialisées où l'on a tout compris et où on est civilisé. Donc on va essayer d'éviter finalement cette partition, évidemment peut-être que cette division, peut-être que parfois on va le faire et on s'en excuse, on n'est pas infaillible, ça c'est sûr. Ensuite on ne connaît pas la culture albanaise ni la culture afghane, on n'y est jamais allé, donc on va le faire à partir de ce qu'on a lu. Donc c'est très fragmentaire, c'est assez restreint, c'est une approche restreinte. On va éviter de faire des grosses généralités et des affirmations culturelles les modes de vie albanais et afghans, même si on suggérera certaines choses évidemment, puisque si on en parle c'est quand même pour dire quelque chose. Voilà en gros finalement l'approche qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'on part de notre point de vue d'un point de vue français, et on essaye de se décentrer un minimum, on ne sait pas si on y arrivera bien. En tout cas, on pense également que c'est important sous prétexte que justement il ne faille pas avoir cette approche trop impérialiste, il n'est pas pour autant. Enfin, je pense que c'est un leurre que de. Je sais pas si Anaëlle t'es d'accord avec moi, mais je pense que c'est à l'heure de s'intéresser finalement, justement en évitant de surtout pas faire de grosses généralités sur je sais pas des cultures, des sociétés, des sociétés qui n'ont pas exactement la même histoire, la même généalogie et qui pourtant recoupent peut-être nos luttes, enfin voilà, nos enjeux parfois, mais soit justement tomber dans un espèce de relativisme culturel qui fasse qu'on s'y intéresse pas et que on ne parle que de notre pays, etc. Et donc finalement reproduire presque un féminisme, enfin des luttes, un point de vue qui serait assez centré, finalement assez ethnocentré, euro centré, c'est pas vraiment notre objectif et c'est pourtant assez difficile étant donné que on a des modes de vie très eurocentrés, je pense.
Oui, le but c'est vraiment pas de porter un jugement sur ces sociétés-là ou sur ces femmes-là dans ces sociétés-là. C'est vraiment de présenter des portraits différents qui peuvent aussi éventuellement nous questionner sur les normes de genre que ça peut poser, etc. Donc il y a vraiment pas de jugement à porter là-dessus. C'est juste une approche. Une présentation de différentes pratiques dans des pays qu'on connaît finalement mal et dont on ne parle du coup pas ou pas bien.
Deuxième et troisième chose, on aborde la masculinité des femmes, c'est-à-dire que finalement, on veut essayer de aborder sa spécificité et son autonomie, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de parler de masculinité des hommes, et peut-être que dans la masculinité des femmes, il se passe quelque chose qui ne peut pas être réduit à une espèce d'imitation de la masculinité et qui doit être nécessairement comparé à la masculinité des hommes. C'est-à-dire que on va voir s'il se passe quelque chose, une création spécifique et autonome. Évidemment que elle se situe dans le cadre quand même peut-être d'une binarité des genres. C'est ce qu'on va questionner. Ouais, voilà. Sinon, troisième point qu'on voulait aborder avant de vraiment commencer rentrer dans le vif du sujet. Finalement, on n'a pas vraiment su comment les appeler, les botchapoches et les bournéchas, puisque, c'est-à-dire utiliser le genre grammatical masculin ou féminin, c'est une question qu'on s'est posée, puisque il y a la question de l'identification qui passe. Je pense qu'une de nos valeurs, c'est de respecter l'autodétermination et de genre. Et donc, c'est-à-dire que si quelqu'un s'identifie femme, si quelqu'un s'identifie homme, on respecte cette identification. Cependant, étant donné qu'on ne parle ni afghan ni albanais, en fait, on s'est un petit peu documenté, mais on n'a pas réussi à voir si les personnes qui en parlaient ou si elles-mêmes ou eux-mêmes, quand ils parlaient d'eux-mêmes, parlaient au masculin ou au féminin. Parce que on a vu des documentaires sur Arte, France 5, les journalistes parlent d'eux au féminin. Alors qu'on ne sait pas vraiment, enfin, c'est un point de vue journalistique, ce n'est pas un point de vue féministe, donc on sait très bien qu'il peut y avoir un biais de traduction, enfin, que ça peut être biaisé. On en est consciente. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que au fil de l'émission, on utilisera peut-être les deux genres, on variera, on essaiera de préciser un petit peu pourquoi est-ce qu'on utilise le genre masculin-féminin, mais c'est essayer de justement éviter trop d'assignation de genre, mais on ne peut pas vraiment choisir de pronom grammatical. Voilà. En fin d'émission, peut-être qu'on diffusera un petit extrait d'un montage qu'a réalisé Zab. Si on n'a pas le temps, on le diffusera dans 15 jours. Ça sera à propos d'un petit programme qu'on aimerait étendre sur plusieurs émissions qui se base sur la question de l'inversion des stéréotypes de genre. Donc on vous précisera un petit peu plus en quoi ça consiste. Mais l'idée, en gros, c'est de permettre d'écrire des scénarios, des dialogues qui mettent en scène des situations où les codes du genre, les rôles de sexe, les langages, les représentations associées aux deux genres sont inversées. Donc on verra l'intérêt de ça, est-ce qu'on peut déconstruire certains stéréotypes, quel est finalement l'enjeu de ce genre de pratique, etc. Enfin, ce genre de proposition scénaristique. Et voilà, et donc le but c'est peut-être ensuite de vous faire intervenir en tant qu'auditrice et auditeur par ce petit programme et voir si en vous, ça évoque également des scénarios, des situations qui sont finalement très genrées et qu'on décide d'inverser. Voilà, donc soit ce sera aujourd'hui qu'on l'abordera, soit ce sera dans 15 jours. On peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas, Anaëlle, est-ce que tu veux commencer par parler des bournéchas ou comment est-ce qu'on fait ?
Je sais pas, peu importe, c'est comme tu préfères, c'est n'importe.
Ok, alors donc le en, écoute, je sais pas, moi je sais qu'on a plus davantage, moi j'ai un peu plus regardé tout ce qui concernait plutôt les Bachapoches en Afghanistan et toi plus les Bonesha en Albanie.
Ouais, c'est ça.
Du coup, voilà, on peut, bon, je vais commencer. On a qu'à dire comme ça. Ok. Donc en fait, j'ai pour que vous ayez des références ou vous puissiez éventuellement aller consulter quelques informations. Il y a deux documentaires qui ont été réalisés sur les Bachapoches, notamment un documentaire de Stéphanie Lebrun qui s'appelle Tu seras un garçon, ma fille, qui a été diffusé sur France 5 en 2011, réalisé en 2011, et qui est encore qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Il y a également un autre documentaire disponible sur Arte. Voilà. Sinon, si vous faites quelques recherches, vous pouvez trouver quelques articles. Voilà, ça a été quand même, il y a eu quelques recherches qui ont été effectuées, etc. Je préfère tout de suite, dire que je n'aurais pas la même approche que les documentaires que j'ai vus, bien que j'ai récupéré des informations, etc. Mais il y a quand même dans les commentaires de la journaliste vraiment une espèce de discours très fort qui considère la société afghane comme une société traditionnelle qui opprime les femmes et donc du coup les Bachapoches comme une espèce de vecteur de pratique d'émancipation. Donc on va pas orienter notre discours trop sur émancipation oppression, même si on y aura forcément recours, mais ça sera pas forcément en tout cas mon paradigme de base, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas connaissance de la société afghane et donc je vais surtout partir finalement de ces pratiques pour essayer de les comprendre et partir des discours en fait des Bachapoches sur finalement leur vécu, partir vraiment des discours. Il y a également, j'ai une deuxième source qui est conférence que je suis allée voir à l'EHESS, c'était il y a quelques mois, c'était sur les masculinités au prisme de l'hégémonie, et donc il y a eu une conférence à propos des Bachapoches, voilà. Donc du coup ça m'a donné quand même quelques informations. Donc en fait les Bachapoches c'est un mode de vie, une identité en fait, on peut dire une identité sociale qui est reconnue, qui est pratiquée de façon assez courante, on va dire, en Afghanistan, puisque tout le monde est plus ou moins au courant qu'il y a des Bachapoches, que alors ensuite le jugement des personnes à ce titre est en général plutôt du côté de la condamnation légère, c'est-à-dire que la plupart ne cautionnent pas vraiment, certains comprennent, voilà, en gros un petit peu la façon dont c'est reconnu socialement. Et ensuite pourquoi pas donner la cause, mais disons oui, pour quelle raison finalement des personnes qui sont nées, des enfants qui sont nés et ont été assignés au genre féminin sont reconnus en tant que filles, se mettent à vivre selon les pratiques, selon les codes de la masculinité, sont reconnus en tant que garçons, pratiquent les activités réservées aux garçons et voilà, enfin globalement sont reconnus en tant que garçons et ne sont pas identifiés comme femmes. Donc c'est un peu plus complexe que ça, mais on va à partir de là. En général, les familles qui n'ont par exemple que des filles, il y a certainement beaucoup plus de cas, mais en tout cas ça peut concerner notamment des parents qui n'ont eu que des filles en fait, hein, et étant donné que ils ont besoin en fait d'un garçon pour tout simplement subvenir aux besoins de la famille, parce qu'il y a quand même cette répartition des tâches que l'on connaît bien, hein, on n'est pas extérieur à ça, c'est-à-dire la division sexuelle, ce qu'on appelle communément la division sexuelle du travail, et qui en gros assigne les femmes au domaine du privé, aux tâches ménagères, etc., et les hommes plutôt à l'extérieur de la maison, à l'espace public, au travail à l'air libre, etc. À l'air libre, ça veut rien dire. À l'espace public, enfin voilà, dans l'espace public. Donc voilà, et donc du coup, ce sont des parents qui décident d'habiller leur fille comme un garçon, donc Je me suis demandé, est-ce qu'il y a... j'ai eu une discussion tout à l'heure. Je me suis demandé si on pouvait vraiment parler de travestissement, parce que c'était la journaliste qui parlait de travestissement, elle utilisait ce terme-là. Or, comment dire, les badges à poche ne sont pas ne sont pas reconnus en tant que travestis, quoi. C'est-à-dire que finalement, le travestissement, ça quand même, ça suppose une reconnaissance du travestissement, ça suppose une visibilité, etc. En fait, justement, le but des badges à poche, enfin, en général, dans leur discours, ils n'ont pas spécialement envie d'être reconnus en tant que femme, précisément, quoi. Certains le vivent bien, d'autres le vivent mal, de pouvoir être reconnus en tant que femme. Mais je pense que justement, on sort des problématiques du travestissement, du moins je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc de une espèce de pratique justement de visibilisation du travestissement.
Parce que d'une manière générale, elles ont quand même les badges à poche. Je préfère employer le terme parce que je sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas si on dit il ou elle. Les badges à poche ont quand même relativement peur d'être démasquées ou d'être reconnues comme étant des filles habillées en hommes, non ?
Les badges à poche ? Oui. Malgré tout, c'est-à-dire par ceux qui sont au courant finalement, c'est-à-dire par la famille. Ensuite, il y a en fait, finalement, ce qu'on se rend compte, il y a deux choses dont on se rend compte, je trouve, c'est que, premièrement, le fait qu'on voit que le fait d'être reconnu en tant qu'homme autorise à pratiquer des activités masculines, ça montre l'arbitraire. Ça montre à quel point la répartition sexuelle des tâches est vraiment codifiée, quoi. Et en termes de visuel, c'est-à-dire qu'il suffit d'être, c'est pas il suffit, mais presque, il suffit d'être visible. Il y a vraiment, ça déconstruit vraiment, je trouve, les codes, enfin, la masculinité, en fait, ça déconstruit, c'est vraiment une déconstruction de la masculinité quand on, je me demande si, les badges à poche déconstruisent, en fait, finalement, cette division sexuelle du travail, c'est-à-dire que il suffit de passer pour homme pour pouvoir être autorisé à pratiquer les activités masculines et à circuler dans les espaces masculins, c'est-à-dire dans la rue par exemple.
Oui, on le verra aussi tout à l'heure avec les bornéchats. Je vais te laisser terminer, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en questionnant éventuellement le fait que ça puisse questionner les pratiques de genre, etc. Parce qu'effectivement, elles sont habillées comme des hommes, donc elles sont reconnues comme des hommes. Elles effectuent des tâches qui, a priori, sont réservées aux hommes, alors que finalement, elles sont nées en ayant le sexe féminin, en étant reconnues comme filles, en se sentant parfois, on va être prudente, appartenant au genre féminin. Donc finalement, ça déconstruit ce discours autour de la division des tâches, de la différence entre les sexes par rapport à certaines tâches, etc.
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi, même si, enfin, encore une fois, ce sont des suggestions qu'on met, puisque, enfin, disons que c'est à partir du discours que ces personnes font de leur vécu, etc., qu'on peut faire ces hypothèses. Et voilà. Ensuite, ce qu'on voit quand même aussi, la particularité, on parlait de spécificité de la masculinité des femmes chez les botches à poche. Je pense qu'il y a vraiment une spécificité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y a une imitation du genre masculin ou qu'il y a un vécu qui est vécu comme un garçon. C'est pas vivre comme un garçon. Il y a vraiment un vécu spécifique à ces badges à poche, puisque pour certaines, pour toutes en fait, il y a une négociation constante qui est d'ailleurs souvent, enfin, qui est justement une négociation de par la précarité de ce vécu et de par sa fragilité, quoi. Mais entre essayer, c'est-à-dire de résister pour certaines ou certains qui ont envie, qui désirent rester socialement des hommes, il y a une négociation avec la pression sociale qui veut en général à la puberté réassigner les chapoches au genre féminin. Et à la puberté, la plupart en fait redeviennent socialement des femmes, parce que il y a la pression du mariage, bien entendu. C'est là qu'on voit que voilà, devenir femme peut-être socialement, ça signifie être sexualisée par le regard masculin. Devenir femme, c'est finalement devenir femme, c'est finalement devenir femme socialement, c'est-à-dire être circulée dans ce sans ce régime de économico-sexuel, d'appropriation des femmes par le mariage, etc. Et donc, pour certaines et certains, ils résistent à cette assignation et à ce rappel à l'ordre. C'est le cas de Jack, un batchapoche qu'on voit dans le documentaire sur Arte et qui a résisté contre sa famille, contre principalement contre sa famille, puisque c'est la famille qui, voilà, du coup, exigeait qu'il s'habille qu'il mette le voile, qu'il circule dans des espaces de non-mixité féminine, etc. Et en fait, il a refusé et la famille a cédé. Donc, c'est-à-dire que ces résistances sont possibles. Les résistances sont possibles. C'est juste que, du coup, il y a vraiment une espèce de lutte qui se crée, une résistance, quoi, vraiment. Jack expliquait que, quand même, il avait été... son père allait jusqu'à le frapper, quand même, pour qu'il puisse revivre en tant que femme. Et il a résisté, et les parents ont finalement accepté. Il filme toute la famille, il vit encore avec sa famille. Il ne s'identifie. Le truc, c'est que il a vécu toute sa vie en tant que garçon. Et donc, forcément, il s'identifie, il ne peut pas s'identifier en tant que femme. Cette identification lui est juste pas accessible, quoi. Et parce que, ça paraît complètement compréhensible.
Il aura peut-être aussi l'impression de perdre une certaine forme de... Je sais pas comment employer ça. De liberté, ou parce que il peut sortir seul dans la rue. Enfin, j'ai un peu regardé, un peu lu des interviews aussi parlant de Jack, et à un moment il disait que il était important pour lui, par exemple, de pouvoir sortir dans la rue seul, sans être accompagné par un homme, sans être regardé de travers, et ce qui était une des raisons pour lesquelles, alors évidemment c'est peut-être un détail, mais ça fait partie du fait qu'il ait eu envie de rester un homme, donc il aurait peut-être aussi l'impression, voilà, de perdre certaines choses qui sont pour lui très importantes en redevenant femme, au-delà même du fait que ce soit pour lui accessible ou pas, je pense.
Oui, non, c'est vrai, t'as tout à fait raison. T'as raison de le préciser, oui. C'est-à-dire qu'il a acquis une liberté de mouvement, des espaces où il pouvait circuler et auxquels il ne veut surtout pas renoncer. Il sait qu'il devra renoncer à ça. Et après, il précise quelque chose que je trouve très intéressante, puisqu'il s'adresse à une journaliste qui est française. Et du coup, il dit je m'identifie pas. Il dit je ne suis pas, comme vous appelez vous, une lesbienne. C'est-à-dire que et forcément que c'est vrai que de notre regard, on s'attend à ce que finalement peut-être elle soit proche d'une butch, quoi. Et du moins peut-être que cette question-là nous passe par l'esprit. Et elle dit non. Il dit non. Je ne désire pas spécialement les femmes. Je ne désire pas les hommes. En fait, il veut juste. Il renonce, en fait, j'ai l'impression, un peu à la relation. Il renonce à toute relation pour sa vie. Il le vit pas comme un sacrifice, j'ai pas l'impression. C'est une vie, un vécu pour le coup assez marginal qu'il choisit. Il en est conscient, mais il dit qu'au moins il le fait parce qu'il l'a choisi. Voilà, je pense que là il y a eu pas mal de temps quand même. Finalement, le temps passe toujours très vite, en fait, quand on se met à parler. On est assez bavarde. Et donc, on va tout de suite vous mettre une chanson. On revient tout de suite après. Anaëlle vous parlera des Bournéchats. Et peut-être qu'on aura le temps, en fin d'émission, de revenir sur les stéréotypes de genre. C'est pas tout à fait sûr. Voilà, tout de suite, je vais vous mettre Queen Mimosa 3, So Sexy.
Sexy. Baby, you can lick my legs.
De retour donc sur RCV, c'est Anaëlle qui vous parle, donc RCV 89 FM, il est 16h40, vous êtes toujours avec Jean Rage, donc là c'est Anaëlle qui parle. Donc voilà, donc nous venons de parler des bâches à poche que Suzanne a présenté, et moi je vais vous parler des bournéchats. Alors les noms changent en fait, les bournés, moi je vais, par commodité je vais les appeler les bournéchats, qui est un mot albanais, alors d'ailleurs je ne sais pas si je le prononce correctement. On les appelle aussi les Albanians Sworn Virgins, donc en anglais. Alors en fait, on a précisé tout à l'heure que c'était des femmes qui se trouvaient en Albanie. Il n'y en a pas qu'en Albanie, en fait. Il y en a en Croatie, au Kosovo, en Macédoine,
en Serbie
aussi, dans différents états baltes. Voilà, donc les bournéchats sont des femmes qui choisissent, un peu comme les bâches à poche. Alors, à la différence des bâches à poche, c'est qu'elles choisissent de vivre comme des hommes. Je vais dire ça plutôt que de dire de devenir des hommes, parce que c'est pas tout à fait vrai. Donc, elles choisissent de vivre comme des hommes. Une des principales raisons, c'est qu'il n'y a plus d'hommes pour protéger la famille. Donc, par exemple... le père est décédé, il ne reste que la mère et les sœurs parce qu'il n'y a pas eu de fils, il n'y a pas d'oncle non plus, enfin voilà. Et donc il faut un homme pour protéger la famille, et donc une des femmes de la famille décide de vivre comme un homme. Elle jouit pour ça des droits des hommes. Alors elle est obligée de se couper les cheveux et elle a le droit de porter un pantalon, alors je pense qu'elle a même le devoir de porter un pantalon. Elle a l'obligation formelle de rester chaste. Et donc, elle a interdiction de se marier, etc.
Il me semble même qu'elle prête serment, non ? Elle prête serment devant 12 personnes, j'avais lu ça, un vœu de célibat, quoi. Presque comme, ça peut presque faire penser à le rituel des prêtres, quoi.
Ouais, alors en fait, c'est...
Ou des bonnes sœurs.
Ouais, en fait c'est assez, alors c'est un processus qui est assez long. Alors tout à l'heure, faut quand même que je revienne sur une précision parce que c'est pas clair dans ce que j'ai dit. C'est un processus qui est assez, qui peut commencer assez jeune en fait. Normalement, c'est les bournéchats peuvent devenir bournéchats assez tôt, en même des enfants, des adolescentes de 14 ans à peu près peuvent choisir de devenir Bournécha. Alors en fait, ça dépend de la raison pour laquelle elles le font et à partir de quel moment la famille a besoin d'une protection dans ce cadre-là. Alors il y a pas, elles deviennent pas Bournécha que pour protéger leur famille. Il y en a qui choisissent de devenir Bournécha parce que elles se sentent plus hommes que femmes. Par exemple, alors ça doit certainement changer au travers des pays, mais la majorité des femmes deviennent Bournécha pour protéger leur famille. Donc je parlais tout à l'heure de certains droits qu'elles avaient, donc elles ont le droit de travailler, elles ont le droit d'avoir une arme avec elles pour pouvoir protéger leur famille des éventuelles attaques extérieures ou...
Elles participent au conseil des villages, par exemple.
Oui, elles participent au conseil des villages. Elles ont le droit de voter pour les élections locales. Elles ont le droit de faire partie de la vie publique, de se promener dans la rue.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'en Albanie, le droit de vote n'est pas... Il n'y a pas le droit de vote pour les femmes, quoi.
Non, voilà. Et puis les femmes, souvent... restent à la maison, elles sortent pas beaucoup, donc les hommes on participe, oui, à la vie publique, fréquentent des réunions d'hommes, etc. Donc elles jouissent aussi d'un certain prestige et d'un certain honneur au sein de leur famille et au sein de la communauté en général. Alors sont des pratiques qui sont observées dans des villages, dans des petits villages en général des États baltes.
Il me semble que c'est au nord de l'Albanie, si je ne me trompe pas, principalement, qu'on en trouve.
Ouais, alors pour l'Albanie, effectivement, c'est au nord. Alors, j'ai oublié de préciser aussi, je vais le faire tout de suite. Si ça vous intéresse et que vous voulez retrouver des références, etc. Pourquoi je me concentre sur les Bournécha albanaises, pardon. Parce que il y a une photographe qui s'appelle Jill Peters, une photographe américaine, je pense, qui a fait toute une série de photos en fait, qui est allée un temps en Albanie. Alors je me demande si c'est pas 3 ans, mais je suis pas sûre. Enfin bref, donc qui est allée en Albanie, qui a rencontré ses Bournécha, qui en a fait d'ailleurs un reportage qui s'appelle He, She, It. Donc Jill Peters, et au départ c'est une photographe, donc elle a fait différents clichés de ces femmes qu'elle a recueillis dans un bouquin, qui sont visibles d'ailleurs sur son site, etc. Et donc elle en a interrogé, interviewé, elle a fait tout un travail autour de ces femmes-là, donc c'est pour ça que je me concentre sur les femmes albanaises, parce qu'on a des rapports, on a des écrits, on a des interviews, d'une surtout, qui s'appelle Camille, alors je ne sais pas comment ça se prononce en albanais, ça s'écrit Q-A-M-I-L-E, donc qui est une Bournécha depuis assez jeune et qui est devenue Bournécha à la mort de son père parce qu'elle ne vivait qu'avec sa mère et ses 8 sœurs, donc il n'y avait pas de fils, etc. Donc elle est devenue Bournécha pour la protection de sa famille parce qu'il n'y avait plus que des femmes. Donc elles jouissent d'un certain honneur parce que justement j'ai perdu ma phrase, excusez-moi. Donc elles jouissent d'un certain honneur et d'un certain prestige. Elles sont respectées par cette décision, justement, de devenir des Bournécha, de vivre comme des hommes. Et parce que c'est un choix qui se fait à vie. Et là, par contre, c'est reconnu par tout le monde. C'est tout à fait toléré. Alors je ne sais pas si c'est légal, je pense pas qu'on ait légiféré sur le cas des Bournécha. En tout cas, c'est toléré et reconnu par tout le monde. Voilà. Et donc ce que je trouvais aussi intéressant, c'était que on parlait tout à l'heure de déconstruction du genre masculin, déconstruction de la binarité un peu, de la division des rôles sexuels, etc. Et ce qui est intéressant de voir, en tout cas sur les clichés que Jill Peters propose, c'est que ces Bournécha ont l'obligation de se couper les cheveux, portent des pantalons, mais par exemple, elles ne masquent pas leur poitrine. Il y a des photos où on voit que les Bournécha ont une poitrine, pour certaines assez généreuse, qui n'est absolument pas cachée, pas bandée, etc. Donc, on a vraiment cette ambivalence un peu entre, alors elles se considèrent pas non plus comme des travestis. Il n'y a pas de question d'homosexualité ou d'hétérosexualité, etc., puisqu'elles ont obligation de devenir chastes. Donc, il doit y avoir dans l'obligation de devenir chaste ce sous-entendu. Alors, ça c'est très occidental comme remarque, peut-être. Pourquoi elles ont obligation de rester chastes, à mon avis, et là c'est très personnel, parce que justement elles sont nées femmes, qu'elles vivent comme des hommes, et que si elles prennent femme, il y a le spectre de l'homosexualité un peu derrière, mais je suis pas sûre que ce soit les mots qui pourraient être employés, etc. Mais voilà.
Ouais, je suis vraiment pas sûre non plus, mais.
Voilà, c'est. Enfin. Ça, le fait qu'elles soient nées femmes et qu'elles vivent comme des hommes joue sur le fait qu'elles doivent rester chastes, mais voilà, c'est pour ça que je précisais juste que c'était un avis, une hypothèse personnelle. Voilà, on va parler d'hypothèse parce que je n'en sais absolument rien, finalement. Et voilà, ce que je trouvais intéressant pour revenir un peu aux questions de genre, c'était que elles sont. Camille, la Bornécha qui a été interviewée, précisait que quand le Jill Peters lui a posé la question de savoir comment elle se sentait, en fait, si elle se sentait plutôt homme ou si elle se sentait plutôt femme. Et après un certain temps de réflexion, elle a répondu qu'elle se sentait et homme et femme, en fait. C'est aussi pour ça que c'est la question des normes de genre ou de la classification binaire, etc., est très intéressante parce que finalement, elles reprennent des codes de la masculinité avec les cheveux courts et le pantalon. En même temps, elles gardent des codes de la féminité avec leur poitrine qui n'est pas masquée. Et elles-mêmes se sentent femme et homme parce que... parce qu'elle est née femme et qu'elle a vécu toute sa vie comme un homme en jouissant des droits des hommes, etc. Donc c'était une question qui me semblait intéressante dans la déconstruction de la binarité qu'on peut connaître entre hommes et femmes dans nos sociétés.
Je ne sais pas si
Isa, tu as des choses... il faut que j'arrête, hein. Suzanne, si tu as des choses à rajouter ou pas à ce que je viens de dire
Juste peut-être pour faire quelques parallèles ou peut-être justement les différencier par rapport au bachapoche. Je sais pas, peut-être qu'il y a une reconnaissance de la spécificité des bournéchades, enfin du fait qu'elles sont femmes plus que chez les bachapoches, j'ai l'impression. D'une certaine manière, tout le monde est conscient qu'elles sont des femmes qui sont des sworn virgins.
Oui, c'est ça. C'est pareil, je sais pas trop, c'est les Bournéchas qui ont été interviewés, pas forcément les gens qui sont autour, donc en fait on sait pas trop comment elles sont perçues exactement, mais c'est vrai que il est tout à fait connu effectivement que ce sont des femmes qui ont décidé de vivre comme des hommes pour protéger leur famille, ce qui leur donne d'ailleurs, c'est surtout le côté protection de la famille qui leur donne ce prestige, et comme elles, d'après ce que j'ai lu sur les bachapoches, justement, les bachapoches masquent leur poitrine, pour reprendre juste cet exemple-là, alors que les bornéchas, non. Enfin, ou alors, c'est pareil, là, c'est les bornéchas...
Si, elles portent des gaines.
Les bornéchas ou les bachapoches?
Les bachapoches.
Ouais, les bornéchas, justement, je ne pense pas, et en tout cas, sur les photos qu'on peut observer, on voit leur poitrine libre et... pas masquées pour certaines, alors certaines on les voit pas forcément, alors après on ne sait pas est-ce qu'elles les cachent ou est-ce qu'elles en ont peu ou... mais voilà, la question peut être posée puisque certaines ont des poitrines visibles.
Ok, je pense que là, comme on arrive plutôt vers la fin, on va vous mettre une petite chanson de La Galle, Le passage d'une frontière. Et tout de suite après, on vous passera le fichier audio dont on vous a parlé, enregistré par Zab. Donc on vous l'enregistre en différé, ça veut dire du coup, et qu'il était pré-enregistré et qui porte du coup sur un exemple d'inversion, d'un scénario qui inverse les rapports de genre. Voilà, on commentera ce petit scénario dans 15 jours. On vous laisse cogiter d'ici là sur ce que ça vous évoque, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à écrire des scénarios et nous les envoyer. En tout cas, on vous précisera un petit peu plus
plus cette idée-là dans 15 jours. Voilà, je pense qu'on peut vous dire au revoir. On vous laisse avec La Gale, Le Passage d'une frontière. Et puis, à dans 15 jours pour Jean Rage. On vous passe le scénario juste après.
Salut, bonne fin d'après-midi.
Phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine, je suis la peur au confinement de leurs nerfs. Et me larva avec torpeur aux quatre coins de leur enfer, je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi, le jour qui m'a amené ici à amorcer mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement s'étarit par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals est mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus peut-être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix. Mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens. Pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. De la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des cas.
Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pas de direct pour moi, mais je vous ai préparé un petit dialogue que je vais vous laisser découvrir dans quelques secondes et sur lequel je reviendrai juste après, pas avant, comme ça vous l'écoutez sans avoir d'idées préconçues. Et voilà, je vous dis à tout de suite.
Stéphanie, 40 ans, mère de famille, rentrée chez elle après un voyage d'affaires en compagnie de son assistant Julien. Elle avoue à Paul, son mari, depuis 15 ans, qu'elle l'a trompé avec Julien.
Je savais que ça arriverait un jour ou l'autre. Avec tous tes voyages d'affaires, j'ai l'impression de ne plus être que le père de tes enfants. De ne plus être l'homme que tu as marié parce que tu le trouvais sexy, aguicheur et insolent.
Je suis désolée. C'est pas ta faute, c'est moi. Quand je suis en voyage, c'est comme si j'avais une autre vie. Je suis plus moi-même. Ça voulait rien dire. C'était purement sexuel. Tu sais bien que c'est toi que j'aime.
Eh ben, j'en suis plus si sûr. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. On est plus jeunes, toi et moi. Julien, c'est un peu comme une seconde jeunesse pour toi. Une jeunesse qu'on n'aura plus jamais. T'es comme toutes les autres. Ces femmes en crise de quarantaine qui quittent leur mari ou les trompent pour des petits jeunes, pour s'assurer qu'elles sont toujours séduisantes et qu'elles peuvent encore se taper des beaux gosses de 25 ans. T'as vraiment pas d'ovaire. T'as peur de vieillir, et moi, tout ce que je représente à tes yeux, c'est ces années que tu as passées à construire une famille. Mais tu veux l'insouciance d'une gamine de 20 ans.
Mais c'était exceptionnel. C'est le stress du travail, mes responsabilités en tant que mère de famille. J'ai besoin de m'évader, de plus penser à tout ça.
C'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui tiens la maison, m'assure qu'ils font leurs devoirs, fais les courses. Et je suis pas père au foyer, je travaille aussi. T'imagines le nombre d'heures que je passe à penser aux autres ?
Oui, je sais, je suis désolée, j'ai pas d'excuses. Ça s'est passé, mais c'est fini. Et ça voulait rien dire. Julien, c'est mon assistant, pas mon amant. Je m'en fous de sa vie. J'ai juste eu un moment de folie, comme on en avait avant à deux. C'est toi que j'aime. Ma vie, je l'ai faite avec toi, en faisant des enfants, en achetant une maison, en trouvant un travail stable. Je veux pas te perdre, Paul. Tu comptes plus que tout pour moi. Tu es ma raison de vivre.
C'est parce que je te satisfais pas sexuellement, c'est ça ? J'ai besoin d'être tout pour toi, ton amant, ton confident, ta salope. Je supporte pas l'idée que tu puisses passer du bon temps avec quelqu'un d'autre que moi. T'as besoin qu'on baise plus ? Je sais pas y faire avec toi, c'est ça ?
Mais si, c'est pas ça.
J'arrête de dire que j'ai mal à la tête quand tu veux et quand je veux pas.
Arrête, tu dis n'importe quoi.
Je sais que t'es une femme et que vous avez des besoins particuliers. Vous avez une libido plus développée, c'est les estrogènes. Nous, les hommes, on peut se passer de sexe pendant plus longtemps que vous.
Tais-toi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ton attitude. T'es toujours sur mon dos à demander de l'amour, à demander mon attention, et moi, bah ça me tue la libido. Parce que c'est comme une pression. Une voix qui me dit que je dois te rendre heureux à tout prix, et je dois te dire ce que tu veux entendre. C'est comme le stress. Dès que je rentre du boulot, je dois faire semblant d'être amoureuse de toi, comme la première année. Je dois te dire que ce que tu as cuisiné, c'est trop bon, alors qu'en réalité, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille.
Tu te la fous toute seule, la pression, je t'ai rien demandé.
T'essaies toujours de faire l'homme parfait, ça m'écœure ton romantisme.
Mais je suis un homme, moi. J'ai besoin de romantisme.
Bah y a des soirs où je veux juste tirer un coup et pas devoir vouer une femme transie d'amour pour pouvoir mettre ma main dans ton caleçon.